おかしいおかしい。おかしい。
Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour suivre la tribune de la presse de ce vendredi 29 août 2008. Nouveaux affrontements entre le CNDP et le FARDC dans la nuit de mercredi à jeudi à Rutshuru au Nord Kivu. Procès Botetsi, nous sommes à l'heure des plaidoiries. Les avocats de la défense rejettent la peine de mort proposée par le ministère public contre les prévenus Patrick Mouwa, Kadi et leurs complices. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 1er septembre prochain, confirmation faite aujourd'hui par Maker Mwango à Radio Kapi. Alors que le dimanche dernier, certains syndicats des enseignants appelaient à la grève. Ce sont les sujets retenus pour ce soir. Pour en parler, nous avons comme invité les confrères John Gombois, directeur de rédaction du magazine Géopolis paraissant à Kinshasa, Fidel Moussangou, coordonnateur de rédaction du journal Le Phare, Olivier Kiriza, chef de programme de la radio Maria de Bukavu au Sud Kivu. Bonsoir à tous. La presse chinoise s'est également penchée sur les sujets que nous avons retenus ce vendredi. Suivons comment elle a traité ces sujets dans cette revue de la presse avec notre confrère Jean Didieu Ogubani.
Nouveaux affrontements entre les FARDC et le CNDP à Rutshuru au Nord Kivu. La nuit n'a pas été calme pour nous. Ces propos d'un habitant de Roubaix sont repris dans Le Potentiel paru ce vendredi 29 août. Selon ce journal, les deux protagonistes se rejettent les responsabilités. Amani de nouveau menacé au Nord Kivu, c'est le titre du quotidien L'Avenir paru aujourd'hui vendredi 29 août. Pour le contraire, la population est fatiguée de ces affrontements. L'autre thème traité cette semaine par la presse chinoise, c'est le procès Botetsi. Les gardes du corps de Botetsi accusés d'homicide involontaire. Voilà comment titre ce vendredi matin Le Potentiel dans sa une. Pour la défense, c'est le garde du corps qui a tiré sur l'honorable Botetsi en raison de son inexpérience dans le métier des armes. Les prévenus pour leur part plaident non coupables, souligne le quotidien de l'avenue du Bas-Congo à Kinshasa. Le palmarès de ce vendredi matin revient aussi sur le même fait. Selon ce tabloïd, l'opinion attend impatiemment un verdict correct sur cette affaire. Mais les dommages et intérêts des 6 millions de dollars réclamés par les défenseurs de la famille Botetsi sont jugés insensés par Maître Charlène, l'avocate de l'État congolais dans ce procès. L'autre thème ayant attiré l'attention des lignes congolais, c'est la menace grave des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP. Incertitude sur la rentrée. C'est la une du journal La Tempête des Tropiques du lundi 25 août dernier. Alors que le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, et le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT, appellent au boycott le 1er septembre prochain, le ministre de l'EPSP, Maker Mwango, confirme la rentrée officielle ce lundi 1er septembre. Pour le ministre, souligne La Tempête des Tropiques, la rentrée scolaire n'est pas une affaire des syndicats. C'est d'après lui la responsabilité du gouvernement congolais. Le palmarès paru ce même 25 août voit pointer à l'horizon quelques problèmes en titrant dans sa première page « À quelques jours de la rentrée scolaire, des étincelles entre Joseph Kabila et Monseigneur Monsengou ». Selon le quotidien de la commune de la Gombe à Kinshasa, Monseigneur Monsengou invite les autorités politiques à plus de responsabilités et appelle la population à sortir de son sommeil. Abordant le même thème, le palmarès du mardi 26 août dernier revient de son côté sur la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents de Bukavu au Sud Kivu. D'après le quotidien situé sur l'avenue du Livre à Kinshasa, les réseaux catholiques et protestants ne veulent plus de cette pratique. Les kimbanistes, pour leur part, la trouvent tout simplement inopportune.
Merci Jean-Dédieu Ogobani, nous l'avons annoncé dans le titre. Des nouveaux affrontements ont opposé l'armée nationale, les FARDC, aux éléments du CNDP de Laurent Kunda dans la nuit de mercredi à jeudi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Jusque hier jeudi, le bilan provisoire faisait état de 4 morts et plusieurs blessés. Cependant, selon le commandant de la 8e région militaire, le général Vainqueur Mayala, un calme précaire était revenu hier jeudi dans l'après-midi dans la zone des combats. Information confirmée par le coordonnateur du CNDP à Bunagana. Dans l'entretemps, une concertation se tient entre le gouvernement et la communauté internationale. Il faut également signaler que toutes les forces de la MONUC sont en état d'alerte. Des détails avec notre confrère Sylvestre Kilolo.
Nous sommes dans les processus et nous ne voulons pas nous y écarter, a déclaré le vice-amiral Didier Etumba, délégué du gouvernement de la RDC et co-président de la commission militaire mixte du programme Amani. Pour le vice-amiral Didier Etumba, il s'agit d'un incident dans les processus de paix en cours.
Le désengagement n'est pas encore fait. Ce genre d'incident peuvent effectivement survenir et même s'occuper.
Pour la MONUC, les travaux de désengagement ayant été clôturés en sous-commission, il est important à présent d'exécuter le plus vite les plans de stabilisation pour éviter ce genre d'incident. Alpha Sow, coordonnateur zone Est de la MONUC.
Les opérations de désengagement vont commencer très bientôt. Donc, c'est évident que le dispositif de la MONUC va être adapté à ce qui va être décidé au sein des commissions du programme Amani dans le cadre du désengagement. Toutes les forces de la MONUC sur le territoire de Rutshuru sont en état d'alerte maximum aujourd'hui et ceci va rester jusqu'à ce que la situation se stabilise complètement.
Pour l'instant, nous n'avons pas pu réussir à recueillir la position hiérarchique du mouvement CNDP, mais un cadre bien positionné du CNDP affirme que leur mouvement ne tire aucun bénéfice dans des incidents et qu'ils attendent beaucoup du programme Amani auquel ils ne peuvent pas se soustraire. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Merci Sylvestre Kilolo. Bonsoir Olivier Kirida.
Bonsoir, mon confrère de Radio Okapi.
Merci. Je rappelle que vous êtes le chef de programme de la radio Maria de Bukavu au Sud Kivu. Vous qui vivez à l'est de la RDC, quels commentaires pouvez-vous faire par rapport à ces affrontements?
Ces affrontements ne font qu'à continuer à endeuiller la population de l'est et la population de l'est n'est pas tranquille et ne peut jamais accepter que de telles exactions continuent toujours à être vécues. Surtout partant de l'accord signé à Goma, là où toutes les forces engagées dans la paix s'étaient dit prêtes à assurer la paix ici à l'Est. Mais une chose qui continue toujours à défrayer la chronique ici, c'est la reprise encore de combats au niveau de Rutshuru. C'est une situation vraiment inquiétante et la population, à leur entendre parler, ils veulent vraiment que ceux qui ont repris encore les armes puissent cesser et se conformer au programme Amani.
Il est directeur de rédaction du magazine Géopolis. Il est dans ses studios avec nous. Lui, c'est John Ngobois. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle réaction avez-vous au sujet de ces affrontements? Vous avez également suivi Olivier Kirida qui a émis les préoccupations de la population qui veut la paix, que les belligérants respectent l'accord d'engagement signé à Goma.
Oui, c'est triste que nous en soyons encore à ce niveau-là, mais j'ai dit que on a trouvé une mauvaise solution à un vrai problème dans cette histoire des affrontements récurrents et permanents dans l'Est. Il a été décidé de négocier. Ça veut dire quand vous acceptez de négocier, c'est que vous êtes en position de faiblesse. C'est le gouvernement de la République, c'est l'État congolais qui a fait une reddition face au CNDP. Et donc le CNDP sait pertinemment que les FARDC ne sauront jamais les déloger parce que le gouvernement, l'État congolais a accepté de négocier. Et maintenant, quand on est dans cette logique des négociations et quand la partie en face sait que vous êtes faible, elle en fait à sa tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État congolais subit les caprices des CNDP. Et je ne sais pas, je ne pense pas que ça va se terminer demain. Et à mon avis, le programme Amani tout simplement un programme budgétivore qui n'est pas tout à fait à sa place. On aurait pu prendre le budget de 1 million, je ne sais combien, les donner au FARDC, motiver les troupes. Et y aller. Voilà, ils ont préféré l'autre voie, il faut assumer.
Nous allons regarder, merci John Ngombois. Fidel Moussangou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur des rédactions du journal Le Phare, vous intervenez à partir de Lubumbashi. Une analyse par rapport à ces combats à Rutshuru au Nord Kivu.
Écoutez, il s'agit d'une grande erreur d'appréciation de questions de fond. Ici, il faut examiner la question des fonds. Le programme Amani a effleuré la question. Quelles sont les questions des fonds? Première chose, il faut une campagne de réarmement des populations du Kivu qui sont traumatisées, qui croient que le Rwanda va prendre le Kivu et annexer le Kivu au Rwanda. Il faut donc commencer par faire une campagne au niveau des hommes politiques du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, pour leur dire de cesser avec cette campagne de mensonges, d'intoxication. Le Rwanda n'a pas les moyens, ni humains, ni matériels, ni financiers, d'annexer le Kivu. Et au cas où le Rwanda l'oserait, eh bien, les autres Congolais prendront le chemin de la guerre pour chasser le Rwanda du Kivu et amener le Rwanda jusqu'à l'océan Atlantique, l'océan Indien. Deux, il faut ensuite maintenant commencer par rappeler aux Rwandais, au gouvernement rwandais, le devoir de gratitude. Si aujourd'hui l'ESPR...
Fidèle, vous ne faites pas l'apologie de la guerre, je pense.
Oui.
Vous ne faites pas l'apologie de la... vous ne faites pas l'apologie de la guerre.
Ce n'est pas l'apologie de la guerre.
Allez.
C'est bien le réarmement fait politique, fait psychologique aux populations du Kivu, pour leur faire comprendre que le Rwanda n'a pas les moyens d'annexer le Kivu. C'est ça le problème, c'est ça la cause de l'engagement des Mai Mai. Enlever ce mensonge grossier dans l'esprit des Kivuciens qui sont traumatisés par autant de guerres inutiles et bêtes.
D'où vient ce mensonge selon vous, avant que vous ne passiez à la seconde campagne, d'où vient ce mensonge selon vous?
Mais le mensonge vient des hommes politiques Kivu qui ont toujours commencé à faire comprendre que le Rwanda va annexer le Kivu. Le Rwanda n'a pas les moyens d'annexer le Kivu. Voilà où se trouve le problème. Voilà l'intoxication. Voilà le traumatisme des populations quand les populations Kivu voient un Rwandais et perdent le contrôle. Parce que, en faisant comprendre aux Kivuciens que le Rwandais ne constitue pas une menace, que c'est un mensonge qui est donc divulgué à travers la population par des extrémistes qui manquent de discours politique, eh bien, on aura gagné beaucoup de choses. Deuxième élément, il faut rappeler le devoir de gratitude au gouvernement rwandais. Il faut rappeler au gouvernement du FPR qu'ils doivent avoir de la gratitude vis-à-vis du Congo, qui les a accueillis depuis 1959. Au Congo, où des tout petits Rwandais, chassés du Rwanda en 59, ont trouvé de l'emploi, ils ont étudié, ils doivent avoir de la gratitude, ils doivent cesser cette politique de se prendre comme s'ils ont gagné la guerre. Il n'y a jamais eu la guerre. Le Rwanda n'a jamais gagné la guerre contre le Congo. Troisième campagne qu'il faut mener,
oui,
il faut renforcer le leadership du président Kabila. Parce que la secte centrale n'a plus de leader. Il faut que le président Kabila récupère le leadership parce qu'il dirige un État fort. Un État fort pas militairement, un État fort parce qu'il y a des ressources humaines. Un État fort parce que c'est l'État qui va sauver la biodiversité à travers le monde.
Okay.
Il faut appuyer ça.
Merci.
Voilà les trois actes de campagne pour mettre fin à cette histoire de Kunda. Parce que Kunda n'est qu'un prétexte.
Okay.
Et quand on aura évacué ça, Kunda sera un simple citoyen qui va circuler au Congo. D'autant qu'il bénéficie de l'amnistie. Il ne faut pas continuer à cette histoire de jeu de ping-pong entre le FARDC et Kunda. La guerre n'est pas une solution.
Merci, Fidèle Moussangou. Olivier Kiriza, vous avez évoqué l'acte d'engagement, l'accord signé par les belligérants lors de la conférence de Goma, mais comment analysez-vous le fait que Fidèle Moussangou puisse dire qu'il faut un réarmement psychologique des populations suite aux mensonges des hommes politiques? Êtes-vous de cet avis?
Je ne partage pas son avis du tout, mais comme je l'ai dit là, le belligérant avait signé sans aucune pression. Tous s'étaient retrouvés autour d'une table, ils ont dit qu'ils voudraient enterrer l'âge des guerres et qu'ils sont pour la paix. Mais comme je l'ai dit là, la population de Bukavu et de Goma continue toujours à se poser les questions sur le motif encore de ces affrontements qui ont repris encore une fois.
Selon vous, Olivier, pourquoi il y a toujours des combats répétitifs? Qu'est-ce qui explique cela, que l'acte d'engagement ne soit pas respecté totalement?
C'est exactement ça la question que la population de l'Est se pose toujours, parce qu'on entend toujours parler des avancées dans cet acte-là, mais on ne sait pas au juste ce qui bloque. Mais à ce que je sache, la population voudrait que les belligérants puissent montrer leur position exacte, au lieu de continuer toujours à poser des signatures du jour au lendemain sur des documents qu'ils ne savent pas eux-mêmes respecter.
Merci. John Gombois, vous avez parlé d'une mauvaise solution, la réédition pratiquement du gouvernement par rapport à ce problème de l'Est. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et on a vu des belligérants signer, fumer le calumet de la paix pour ne plus faire parler les armes, mais aujourd'hui on reprend pratiquement à la case du départ.
Oui, c'est pour respecter un pacte, il faut qu'il y ait une coercition. pilier, il faut qu'il y ait une tierce partie qui puisse frapper le contrevenant. Or, il n'y a pas de tierce partie ici. Moi, j'avais pensé peut-être la MONUC, mais je ne suis pas très très sûr de la capacité de la MONUC de poursuivre effectivement les fautifs jusque dans leur dernier retranchement.
La MONUC agit suivant son mandat.
Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de pouvoir de coercition. Aujourd'hui, si quelqu'un, les deux parties, si l'une des deux parties viole le pacte, personne ne viendra les réprimander pour cela. Et voilà pourquoi est-ce que on ne sait pas aujourd'hui imposer le respect de ces pactes. Et maintenant, on se contente juste de la bonne foi, de la bonne volonté des deux parties. Et il y a une des deux parties qui est convaincue que l'autre est faible. Le CNDP est convaincu que les FARDC ne font pas le poids. La preuve, un peu avant que ce pacte soit signé, il avait été décidé que les FARDC feraient l'offensive et qu'elles allaient bouter hors du pays les CNDP. On sait comment ça s'est terminé. Finalement, le gouvernement qui avait pris l'option dure a dû se rabattre sur la négociation. Et donc, politiquement, stratégiquement, ça veut dire que vous êtes faible. Les CNDP, c'est que les FARDC sont en position de faiblesse. Et voilà pourquoi on en est là. À mon avis, il faudrait revoir, réouvrir peut-être ces discussions et réfléchir dans le camp, surtout du gouvernement, parce que je parle gouvernement aussi, je comprends l'autorité qui régularise, qui régule plutôt la vie dans la RDC, parce que la vie dans la cité Congo n'est pas régulée par le CNDP. Et donc, il revient à Kinshasa de pouvoir pacifier le Congo. Or, aujourd'hui, on a placé Kinshasa dans la même position que le CNDP, qui est considéré comme un mouvement.
Quelle option prendre finalement?
On est en commençant avec dit au départ, je l'ai dit au départ, tu m'as dit qu'on remettra ça plus tard. Moi, je pense que tout l'argent qui a été sorti pour organiser Amani et tout ça, il y a eu beaucoup d'argent qu'on aurait dû donner aux militaires. Parce que ces militaires-là, ils ne font pas la guerre. Pour l'instant, ces militaires-là, ils sont en train de sauvegarder les territoires nationaux, tout simplement. Ils ne sont pas allés dans un autre pays. Ils sauvegardent les territoires nationaux. On aurait dû donner tout cet argent aux militaires. Moi, je suis sûr que ça leur aurait remonté le moral. On aurait pu leur acheter des armes et ben, ils allaient assurer la sécurité du territoire national sans faire plus.
Merci, John Gombois. Fidel Moussangou, vous avez notamment évoqué le réarmement psychologique des populations pour lutter, au fait, écarter, selon vous, le mensonge de certains hommes politiques qui disaient que le Rwanda serait prêt à envahir le Kivu. Vous avez parlé de devoir de gratitude du Rwanda et renforcer le leadership du président Joseph Kabila. Mais il y a un cadre, c'est le programme Amani. Avec cette allure, peut-on espérer un aboutissement heureux des accords qui ont été signés entre les belligérants?
Déjà au départ, le programme Amani a pris une allure folklorique. C'est dépenser de l'argent, exposer le président et les autorités congolaises dans une sécurité à Goma. Imaginez, le président Kabila est resté pendant 2 semaines à Goma. Et si jamais une force obscure venait l'enlever ou le tuer, et à quoi servir de dépasser le président Kabila? Donc ce programme, c'est une erreur. Ce n'est pas une affaire d'un programme. C'est une affaire du gouvernement congolais avec une diplomatie forte sur le plan sous-régional, international et diplomatie interne. Vous savez, l'histoire de ce pays...
Fidel, le chef de l'État, à moi je ne me trompe, c'est lui le garant de l'unité nationale, le commandant suprême. Donc là où il peut toujours être là, il n'y a pas d'enjeu. On l'a vu à l'époque.
Non. Pour devenir garant, on ne peut pas se déplacer. Le garant, c'est quoi? C'est un symbole. Et le symbole peut rester à Kinshasa, la capitale. Il ne faut pas se déplacer là, en face des armes, pour assurer le symbole. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire de ce pays est impitoyable. Le Congo est le royaume de la palabre, de la négociation. La rébellion, on a mis fin à la rébellion par la négociation. On a mis fin à la sécession katangaise par la négociation.
Le programme Amani est là.
On a mis fin à la guerre par la négociation. Donc, écoutez, la guerre ici, la soi-disant guerre de 97-98, là, mais on est allé à Santiti, on a négocié, Robert est à Kinshasa, le petit président pendant 3 ans, il vient, il va comme il veut, l'autre champion de l'État, Rivière Kinshasa, et pourtant, c'était le grand belligérant. Rappelez-vous ce gouvernement fantastique, avec tous les belligérants, comme au niveau de l'espace présidentiel, au niveau du gouvernement, ils ont évolué ensemble, au Parlement, au Sénat, et même dans le service de sécurité.
Et aujourd'hui, pourquoi pas faire comme vous le dites là? Pourquoi ça ne tient pas?
Ça ne tient pas parce qu'on ne veut pas examiner la question des fonds. Quelle est la question des fonds? Quel est le problème posé par Kunda et les Maïmaï? Les Maïmaï vous disent les Rwandais veulent annexer le Kivu. Kunda vous dit les Interahamwe menacent la sécurité de tous les Congolais. Voilà le fond du problème. Personne ne veut examiner ça. Si on dit aux Maïmaï, écoutez, les Rwandais n'ont pas les moyens d'annexer le Kivu. Ils n'oseront jamais le faire. Ils n'ont ni les moyens militaires, financiers. Ils n'ont aucun moyen pour annexer le Kivu.
Merci.
Ils n'ont pas encore fini. Écoutez, les Rwandais n'ont pas encore fini l'intégration entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Ils ne vont pas s'aliéner les 450 tribus congolaises. Ils n'ont pas les moyens.
Merci.
La politique.
Vous voyez la politique.
Pour les Maïmaï.
Merci.
Vis-à-vis des Kunda, il faut, nous, gouvernement, négocier avec les Interahamwe, leur demander d'être un peu, avoir de la gratitude pour ces pays qui les a accueillis.
On a compris. Oui, on a compris, Fidèle Moussangou, vous l'avez dit. Rapidement, Olivier Kiriza, vous êtes chef de programme de la radio Maria de Bukavu, Sud Kivu. Vous avez un mot à placer par rapport à l'avenir du processus du programme Amani.
Comme venait de le dire mon confrère là, le pays a tant souffert, la population n'a tant que la paix. C'est juste une petite interpellation à tous ceux-là qui se donnent le luxe de signer des accords par-ci par-là. Ils sont vraiment appelés à respecter ce qu'ils signent et le Congo restera indivisible et le Congo veut. Dans les jours qui viennent, en commençant par les différents accords, fumer le calumet de la paix, comme on l'avait vu les belligérants le manifester lors des différents accords qu'ils ont eu à signer à Goma.
Merci Olivier Kiriza. Nous passons au deuxième thème de notre tribune de la presse. Hier, à la deuxième journée de l'affaire Boutetti, le Conseil de la Défense a rejeté la peine de mort proposée par le ministère public contre les prévenus Patrick Mouloua, Kagi et leurs complices. La défense demande au tribunal militaire de garnison Galima de décharger les prévenus des préventions d'associations de malfaiteurs et de meurtres dont les faits n'ont pas été prouvés. Dans l'entretemps, les avocats des prévenus chargent le garde du corps brigadier Kankongé d'avoir donné la mort à son patron, Fou Boutetti, sans le vouloir. Askin Zidetaoro nous relate le fait.
Cette plaidoirie de la défense a pesé hier au camp Kokolo sur le garde du corps de Boutetti. La défense a démontré que le brigadier Kankonde a été inexpérimenté en port d'armes automatiques et que dans l'ombre sans contrôle, il aurait tiré sur son chef qui aurait gêné à Lingala des suites de coups de balles reçus au Bomingaï. Ce qui voudrait dire « Tu m'as tué » ont soutenu les avocats de prévenus. Pas d'aveu, pas de témoignages, moins encore, des indices sérieux n'ont été présentés devant le tribunal militaire pour charger le prévenu Patrick Mouloua, Kadi, de prévention d'association de malfaiteurs et de meurtres. Ainsi, la défense a plaidé non coupable pour ses clients. Elle propose au tribunal de poursuivre Kankonde pour homicide involontaire. La partie civile Kankonde, Boutetti et les ministères publics vont à l'audience de ce vendredi répliquer à la plaidoirie de la défense, ce qui pourra aider le tribunal militaire à rendre prochainement les verdicts.
John Ngomboa, vous êtes directeur des rédactions du magazine Géopolis qui paraît à Kinshasa. Vous avez sûrement suivi ce procès depuis son début. Quelle lecture pouvez-vous faire à ces stades de la plaidoirie?
Je suis inquiet. Je suis inquiet quant à la recherche de la vérité parce que j'ai comme l'impression que ce procès est en train de tourner à notre boudin alors que il aurait dû être pédagogique compte tenu du moment et de l'environnement. Je souhaite que ceux qui doivent dire la loi se ressaisissent de façon à ce que la vérité soit établie dans cette procédure.
Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils se ressaisissent? Vous avez bon, les inquiétudes d'abord.
Parce que vous voyez que l'allure, ça ressemble un peu à un mélodrame maintenant. C'est une sorte de comédie parce qu'on est en train de raconter des histoires
incroyable. Et puis l'allure, les temps que Camille les procès, évidemment, il faut faire une instruction correcte et suffisante. Mais ce procès, à mon avis, ne devrait pas prendre trop de temps et il faut qu'on puisse trouver la vérité, qu'on sache qui a assassiné Boutetti et pourquoi. Et pas qu'on se perde dans des questions de procédure où finalement on oublie, on s'éloigne de la réalité. Voilà mon appréhension.
Merci John Ngomboa. Fidèle Moussangou, coordonnateur de rédaction du journal Le Part, le collectif des avocats plaide non coupable. Ils ont évoqué un vide de preuves matérielles. Comment vous vous réagissez par rapport à la poursuite de ce procès?
Il y a une vérité implacable.
Laquelle?
Le vice-président Daniel Boutetti a été assassiné. Les assassins ont été attrapés, dont le fameux Patrice Noah, qui a commencé par mentir, impliquer le gouverneur dans un scénario un peu rocambolesque, pour finir par demander pardon. Deux, les assassins là-bas, les présumés assassins là-bas, ne sont pas leur premier coup. Il a été prouvé qu'au même endroit, ils ont attenté à la vie de notre vedette de football, Nonda. Ils ont attenté à la vie du bâtonnier Matadinenga. Ils ont attenté à la vie du colonel Kasangana. Mmh. Et ça, ce sont les gens les plus connus. Ils ont, au même endroit. Donc, ces gens, c'est des récidivistes, c'est des criminels qu'il ne faut même pas pardonner. Alors, la défense a sa manière de présenter les faits. Mais les avis ont été faits devant le juge à l'audience publique. Donc, le tribunal doit aller vite et prendre un jugement sans complaisance. Et ensuite, il faut que le pouvoir politique lève le moratoire sur la peine de mort. Parce que tant qu'on n'aura pas exécuté tous ceux qui sont à Makala, qui ont tué Serge Nyembo, qui ont tué le président Kabila, qui ont tué à gauche à droite, qui ont tué Mbapu Mwaba, qui ont tué Franck Ndika, qui ont tué Serge Maïche, eh bien, nous aurons des cas pareils. Alors, on va se ressaisir le jour où les mêmes criminels, donc, il a été dit ici, le Patrick Noah était détenu à Makala pour tentative de meurtre à main armée.
Fidèle Moussangou, pour revenir un peu, presque le monde entier a abandonné la peine de mort pour la peine à perpétuité. Il faudrait qu'on revienne encore en arrière.
Aux États-Unis, la plus grande démocratie du monde, la peine de mort est encore là. Je suis désolé. Et dans beaucoup de pays. Or, aux États-Unis, la peine de mort là. Non seulement il faut, mais pour le moment, il faut d'abord exécuter pour dissuader tous les récidivistes. Ensuite, il faut renforcer, il faut former la police nationale. Ensuite, il faut, j'ai toujours demandé ça, il faut renforcer les services de sécurité privée en leur donnant des armes et des munitions de guerre pour que les pauvres citoyens que nous sommes, nous puissions prendre un abonnement et nous sécurisons les quartiers pour qu'il n'y ait pas des Patrick Meua, des gens qui ont tué Franck Tindy, qui est mon collègue et mon ami de profession, qui ont tué mon neveu Serge Maïche, des gens qui ont tué Franck Bapo Mwamba, puissent se retrouver à Makala en train de vivre au moment où les familles sont endeuillées. Pour que la famille de mon épouse Daniel Boutetti soit quand même assez sécurisée. C'est la première question. Ce n'est pas parce qu'on doit tuer. Non, la peine de mort, moi je suis abolitionniste. Mais pour le moment, il faut qu'on la pratique.
Merci.
Pour que la famille de Seth Nyembo soit quand même aussi récompensée.
Merci, Fidèle Moussangou. Olivier Kiriza, vous avez un mot à placer par rapport à ce procès, à la justice?
Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, mon confrère, là, nous sommes un pays des droits. Il y a beaucoup de cas d'assassinat qu'on observe par-ci par-là dans tout le pays. Et ce qui est décevant, c'est de voir que dans tous les côtés, on n'a jamais établi en réalité des coupables, et on n'a jamais bien élucidé les motifs de différents assassinats que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Nous voudrions que vraiment la justice fasse son travail et qu'elle éclaire exactement la population et surtout donner la lumière sur les motifs qui poussent les criminels à accéder et juste à mettre fin à la justice. de différentes personnes de grande valeur que nous connaissons dans ce pays.
Merci Olivier Kiriza. Que la justice fasse son travail. Nous passons au troisième sujet de notre tribune de la presse. C'est confirmé. La rentrée scolaire 2008-2009 est maintenue pour le 1er septembre 2008 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en dépit de l'appel au boycott du CIECO et du CINECAT. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire l'a dit ce matin sur les ondes de Radio Okapi au cours de l'émission Okapi Action. Makia Mwango demande aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école le lundi prochain. Makia Mwango, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, répondait aux questions de J.R. Ngembo et Nounongoli.
Nous nous disons, le 1er septembre, la rentrée scolaire doit avoir et aura lieu. Il ne faut pas qu'on considère la rentrée scolaire comme si nous étions sur un ring, en train de nous battre. L'éducation de nos enfants n'a pas besoin de ça. Si nous n'arrivons pas à respecter les calendriers scolaires, c'est nous-mêmes qui allons nous plaindre après de la qualité de notre enseignement. Les mêmes personnes que vous avez contactées sur l'évaluation de l'année passée sont montées au créneau pour dire encore une fois, non, on n'a pas respecté les calendriers scolaires. Alors, il faut qu'on sache ce qu'on veut réellement. Si nous ne faisons pas la rentrée scolaire le 1er septembre, nos enfants ne vont pas terminer leur programme. Nous nous mettons ensemble, on prend des décisions, on signe des actes et après, vous voyez quelqu'un qui sort, souvent ils n'ont pas qualité.
Comme les années antérieures, les enseignants menacent d'aller en grève. La menace des enseignants d'aller en grève a été décidée par le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, CINECAT, et le syndicat des enseignants du Congo, CIECO. C'était lors de l'assemblée générale tenue le dimanche 24 août dernier à Kinshasa. Plusieurs revendications justifient cette menace de grève. Il y a notamment l'application du barème salarial de Mboudi. John Ngombo, le gouvernement persiste et signe la rentrée scolaire sera effective le 1er septembre prochain, alors que les enseignants, par exemple de Walungu, au sud Kivu, et les autres, notamment les syndicats, disent non. Votre réaction?
Bon, je suis un peu gêné parce que je reconnais les revendications des enseignants. Elles sont fondées, elles sont pertinentes, et en même temps, il y a la nécessité d'éduquer nos enfants. C'est fort dommage que l'enjeu de ces bras de fer soit l'éducation des enfants. Évidemment, c'est aussi délicat de présenter ça comme ça, mais la réalité, c'est cela. Les enseignants disent, écoutez, si vous ne payez pas, nous n'éduquerons pas les enfants. Et c'est quand même dommage quand on considère, on fait une prospective sur le devenir du pays. On se dit, mais là, on est en train d'hypothéquer le devenir de nos enfants. Et donc, le Congo n'a pas d'avenir. Et il faudrait que les enseignants comprennent que les enfants qui sont en train d'enseigner, la majorité, ce sont les enfants des moins nantis. Généralement, ce ne sont pas les enfants des ministres, ce ne sont pas les enfants des directeurs généraux, ce sont les enfants des enseignants aussi, souvent. Et donc, ils se préjudicient, parce que les enfants des autres, ceux qui ont un peu plus de moyens, ils n'étudient pas au Congo, ou ils étudient dans des écoles où ces questions ne se posent pas. Mais ceci dit, il mérite quand même de poser ces questions dans un cadre moins dramatisé, comme c'est le cas maintenant. N'était-il pas possible de poser cette question un mois avant, deux mois avant? Et donc, je pense que, moi, je suggère que les enseignants se ressaisissent, parce que je sais que la rentrée scolaire, c'est...
Qu'ils reprennent le cours avec...
Je sais que la rentrée scolaire est une occasion en or pour pouvoir se renchérir. Mais n'existe-t-il pas une autre possibilité pour poser ce problème? Parce qu'il s'agit de l'éducation de nos enfants et qu'on est en train d'hypothéquer. Et mais tout en condamnant aussi la partie en face, le gouvernement jusque-là n'a jamais été, je ne parle pas forcément du ministre, mais je prends le gouvernement comme l'institution. Le gouvernement n'a jamais été sérieux dans ses promesses avec... que ce soit les enseignants, que ce soit les fonctionnaires de manière générale. Et notre gouvernement, il faut le reconnaître, il faut aussi le prendre de manière forte. Parce que si vous ne faites pas peur au gouvernement, je vous laisse bien sûr que vous n'allez pas être satisfait. Le gouvernement n'est satisfait que les gens qui l'inquiètent, malheureusement.
Merci, John Gombois. Fidel Moussangou, est-ce que par rapport les revendications des enseignants, est-ce que vous estimez que le gouvernement, maintenant là, sera capable de répondre à toutes ces revendications? Il y a notamment l'application du barème salarial de Mboudi. Nous avons également la mise en application de la mesure sur la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents et autres. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à le faire?
Je vous dis que, d'abord, j'ai 15 ans comme enseignant. Je donne le cours de la première année sur le français et littéraire, commercial, scientifique, dont je connais ce métier pendant 15 ans. Deux, je suis parent, j'ai 2 enfants à l'école secondaire, 2 à l'école primaire maternelle et 3 à l'université. Donc, je suis personnellement visé par ce crime contre l'humanité qui se profile à l'horizon. Je soutiens que le fait de ne pas donner des moyens conséquents à l'enseignement fondamental constitue pour moi un crime contre l'humanité. Nous sommes en train de créer des voyous. Dans 20 ans, le Congo se trouvait beaucoup de voyous, ou comme disait un jour mon journal Le Phare, dans 20 ans, la ville de Kinshasa sera dirigée par un chef. Ils seront plus nombreux, ils vont élire un chef comme gouverneur et un chef comme membre de l'Assemblée provinciale. Si on continue à jouer au jeu, au chat et à la souris. Parce que d'un côté, l'Église catholique et les organisations de défense des droits de l'homme refusent que les parents continuent à prendre les enseignants en charge. De l'autre côté, le gouvernement évite d'examiner la question de fond, qui est la question du salaire à donner à l'enseignement de l'école fondamentale. Alors, elle commence à traiter des problèmes de salaire palier par palier. Hier, les médecins ont grévé, ont réglé leurs problèmes, ont fait des promesses chimériques. Aujourd'hui, vous allez voir, le ministre parle parce qu'il se base sur des faux syndicalistes qui ont dit que la rentrée aura lieu. Mais le vrai syndicat, c'est quoi? C'est Sénéca, c'est Sénéco.
Il se pose aussi un sérieux problème, Fidèle, vous étiez, dans, en fait, vous avez œuvré dans ce secteur, il se pose aujourd'hui un problème au niveau de ces syndicats. Il y a les uns qui disent que la rentrée, c'est le 1er septembre, et les autres qui rejettent catégoriquement ce point de vue.
Écoute, frère, je suis parmi ceux qui ont démarré ce système de la prime des parents aux enseignants. J'étais enseignant et j'ai fait partie d'un groupe d'enseignants qui avait accepté ce... Et j'ai quitté l'enseignement quelques années plus tard. Donc je sais pourquoi on a posé ça. Parce que le salaire est minable. Vous n'allez pas donner à un enseignant 50 dollars. Il va vivre comment? Il a aussi femme et enfant, il doit payer le loyer, il doit faire le transport, il doit payer les frais médicaux pour lui et ses enfants. Donc, il faut que le gouvernement accepte que le salaire qu'on accorde maintenant à l'enseignement fondamental est minable.
Merci.
Il faut que le gouvernement trouve des moyens dans d'autres rubriques du budget.
Ok, nous
par
allons...
exemple, pour...
Oui, nous allons...
Le budget militaire.
Je vais vous donner Fidèle, je vais vous redonner la parole pour les propositions. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Mais allons dans le sub-tivou avec Olivier Kiriza. Vous avez suivi le ministre qui dit que le 1er septembre, ça sera la rentrée, et les enseignants d'un côté, un groupe qui dit niet, donc il faudrait que les revendications soient respectées.
Exactement comme vous le dites, c'est toujours ça ce qui se vit ici aussi à l'Est. Les enseignants veulent avoir leur salaire selon que mon confrère était en train de le dire là. Ils veulent vraiment que les gouvernements prennent en charge exactement leurs revendications et qu'une solution soit trouvée. Et les enseignants de ce côté veulent qu'il n'y ait plus de zone salariale différente. Ils voudraient que tous les enseignants soient payés de la même manière, et ils voudraient qu'ils soient payés en respectant le premier palier de l'Oubli, comme ils sont en train de le dire. Vous savez, l'héritage que la nation doit donner à sa jeunesse, c'est vraiment l'éducation. Mais analyser un peu la situation telle qu'elle est en train d'être vécue, on aurait comme impression que le gouvernement n'est pas en train de ménager vraiment les paquets pour que les enseignants retrouvent leur compte et qu'ils cessent de se lamenter.
Merci Olivier Kiriza. John Gomboa, hier jeudi, un arrêté interministériel a été signé par 3 ministres, Plan, EPSP et Fonction publique, pour la création, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée du recensement des enseignants. Le budget de cette commission, c'est 3,5 millions de dollars. Est-ce que la manière dont cela est fait à la veille, on s'achemine pas finalement vers l'organisation de ce système éducatif en RDC? C'est pas une des solutions?
Oui, j'allais même être démagogique en disant, tiens, mais les 3 millions là, on aurait même pu commencer par les payer aux enseignants. Mais ce n'est pas la première fois, vous savez, le recensement est une question de décision politique. Si jusque-là, ces recensements-là n'arrivent pas à un succès réel, c'est tout simplement parce que il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles et qui se retrouvent dans le surnombre des enseignants. En général, ce ne sont même pas les enseignants qui provoquent ceci. C'est juste ceux qui sont entretenus à un niveau supérieur. Mais alors, ce sont les mêmes personnes qui vont en plus avoir la charge de contrôler l'effectif. Mais ça va aboutir à quoi? On l'a fait dans l'armée et on a bien vu ce que ça a donné. Et même dans l'administration publique, on l'a déjà fait aussi avec les Sud-Africains. Il y avait aussi de l'argent. Mais le problème perdure parce que c'est un système qui est organisé. Donc, c'est une question de volonté politique et pas forcément vraiment de moyens. Parce que le gouvernement congolais peut faire le recensement de ses enseignants en recourant à son propre réseau. Pas qu'il y ait des tierces personnes ou un financement extérieur. Hein. Donc, moi, je pense que ce n'est pas forcément la solution, aussi longtemps que à l'intérieur, on n'aura pas
la solution aujourd'hui, selon vous, une proposition. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire, par exemple, aujourd'hui, John? L'argent.
Mais écoutez, le gouvernement peut payer les enseignants.
Il a le moyen.
Mais est-ce que vous connaissez les dépenses qui sont effectuées dans ces pays pour autre chose? Et l'enseignant ne demande même pas beaucoup. Qu'on les paye même $200, mais prenez les salaires qui sont distribués à gauche, à droite, l'argent qui ne rentre pas dans la caisse de l'État, l'argent qui est détourné. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Merci, John. Bon, moi, Fidèle Moussangou, en une minute, vous étiez en train d'évoquer, de parler de certaines propositions que le gouvernement doit faire. Allez-y.
Écoutez, au niveau du ministère de l'EPST, il y a un service qu'on appelle CEPOP, un service qui a été créé à l'époque où moi j'étais enseignant. C'est un service technique qui précise le nombre d'enseignants qui peuvent et veulent dans une école par rapport au nombre de classes. Et précise. Et s'il y a un hic, un doute, on envoie un inspecteur sur le terrain et qui vous dit il y a un plus. Et à l'école primaire et secondaire. Donc, le contrôle se fait à ce niveau-là bien. Au niveau donc à la base. Deux, il faut que le gouvernement ait le courage de renverser la barre du budget. Il faut accorder plus d'argent à la santé et à l'enseignement. Sinon, nous aurons des chèques comme dirigeant l'année dans 20 ans. Nous aurons des gouverneurs chèques et des assemblées dirigées par des chèques, messieurs. Je le dis dans 20 ans que je ne serai plus là, mais j'ai peur pour mes enfants et nos descendants pour le pays.
Merci.
Et nous serons obligés d'apporter des enseignants au Rwanda, au Burundi, et tout simplement les importants, c'est renverser la barre, faire un budget de développement de l'enseignement et de la santé. Diminuer les dépenses politiques idiotes comme ce qu'on a fait avec le programme Amani où on a déplacé des millions de dollars pour rien, pour aboutir à l'échec que nous connaissons maintenant.
Merci.
Et l'argent est là.
Merci.
Et si on n'a pas d'argent, on peut recourir à la coopération internationale.
Ok.
On l'a fait pour le Fidèle, monsieur.
Merci, Fidèle Moussangou. Olivier Kiriza, rapidement, vous également, vous pensez que l'argent est là pour payer les enseignants?
Exactement, je pense que l'argent est là, c'est pour, comme le disait mon confrère là, les gouvernements doivent tout faire et doivent ménager vraiment sa monture pour sauver ce qui peut encore l'être, connaissant déjà les niveaux de l'éducation avec le fait de voir les parents payer la prime. Bref, on n'est plus seulement à sauver une année scolaire, mais il faut bien sauver tout un système éducatif.
Merci, Olivier Kiriza. John, un dernier mot à ajouter pour que la rentrée soit effective?
Oui, je dis, l'avenir du Congo, comme on le dit, se trouve dans l'éducation de la jeunesse. Et si vous ne voulez pas que le Congo n'ait pas d'avenir, n'éduquez pas la jeunesse de santé.
Merci, John Gobois. C'est par ici que s'achève la tribune de la presse de ce soir. Merci à Claude Kienza qui l'a réalisé. Merci également à Mimi Kindou qui était à la mise en onde. C'était la dernière participation de nos invités. Nous les remercions. À toute l'équipe qui nous a aidés à préparer cette émission. Kelly Kouté, Guy Maté, Titine Poutou et Jean Desdieux Ogobani. En leur nom, Guy Roger Nafala vous dit merci et bonne soirée chez vous. We'll be right back.
Thank you.